Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. Et bonne année 2021. Alors que tout le monde a la tête dans le guidon de 2022, 6ème Science roule carrément à contresens sur la route de 2021. Et qu'est-ce qu'on y voit? Rien de très marrant, faut bien l'admettre. Entre la mort de Bebel, le rapport alarmant du GIEC, sans oublier la mise en place du pass sanitaire et l'ouverture du procès du 13 novembre, les occasions de se réjouir, comme l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker ou la belle performance des athlètes français aux Jeux Paralympiques, ont souvent été occultées par une actualité bien tristoune. Sauf peut-être du côté des sciences. Sous la lentille des microscopes et des télescopes, le calendrier 2021 est criblé de croix blanches car l'année n'a pas été avare en découvertes. Dans son numéro de janvier 2022, Science et Avenir en a sélectionné 10 tout ronds. Dans quel domaine ces percées ont-elles été effectuées? Quelle est leur portée? Mathieu Novak, le rédacteur en chef du magazine, est avec nous pour décortiquer les trouvailles et percées scientifiques les plus marquantes de la 21e année du 3e millénaire. Bonjour Mathieu.
Salut Romain, bonjour à tous.
Commençons simplement et largement. Est-ce que 2021 a été une année riche en découvertes?
Alors oui, ça a été une année riche, mais j'ai même envie de te répondre différemment. C'est que il y a un truc qui est quand même extraordinaire avec les sciences. C'est depuis plus de 20 ans que je travaille dans le milieu. Il n'y a pas eu une année où je me suis dit, bon, finalement, c'était pas terrible. Pendant 10 ans, j'ai fait les actus de Science et Avenir. Pendant 10 ans, je me dis chaque mois, waouh, quand même, on a de la chance. Hein. On a de l'évasion, des découvertes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et 2021, ça n'a pas fait exception.
Malgré l'effet Covid.
Malgré l'effet Covid, alors parce que les projets de recherche sont souvent des recherches sur le long cours. Alors, il y a des domaines qui ont été impactés quand les gens n'ont pas pu faire leurs expériences. Mais tu as quand même des résultats. On en parlera de travaux qui durent depuis des années et des années.
Vous avez réduit votre sélection à 10 découvertes sur un an. J'imagine qu'il y a eu un gros travail de tri. Comment vous avez appliqué votre grille de sélection?
Ah, c'est dur, tu sais, on fait plus de 100 sujets tous les mois dans le journal. Donc, il faut choisir. Alors, comment on choisit? On choisit de deux manières. D'une part, on essaye, avec l'expérience, de se dire qu'est-ce qui aura marqué l'année? Qu'est-ce qui aura changé le visage des sciences? On se dira, ah oui, ça c'est en 2021, il s'est passé ça, et ça a changé les connaissances. Et deuxième critère, c'est quelle histoire j'ai envie de raconter. Une belle histoire, ça fait toujours un bon sujet.
Bah justement, parlant de belle histoire, est-ce que toi, il y en a une parmi les 10 qui te tient particulièrement à cœur ou qui t'a marqué personnellement?
Alors, il y en a une qui m'a marqué, et c'est pas la plus facile à raconter, parce que c'est un changement fondamental en biologie. Pour le dire simplement, aujourd'hui, on a résolu un problème de plus de 50 ans. On sait deviner à quoi va ressembler une protéine en 3 dimensions. Alors, dit comme ça, c'est un peu aride. Mais moi, ça me fait penser quand dans les années 60, on avait inventé le laser et on avait dit « Ah ben, on a trouvé une solution en attente d'un problème. » Et ben là, c'est un peu ça. On a une rupture absolument majeure dans la manière dont on va faire la science. Parce que pour fixer les idées, dans la nature, dans le vivant, il y a 3 types de molécules. Il y a les sucres, les glucides, les graisses, les lipides et les protéines. Et en fait, tout le vivant se repose sur les protéines. On dit que c'est les briques du vivant. Tu en as dans les muscles, ça permet de transformer la nourriture en énergie, ça permet de lutter contre les microbes. Et qu'est-ce que c'est une protéine? C'est un assemblage de 20 petites molécules, qu'on appelle les acides aminés, dans tous les sens. Et il y a 50 ans, il y a eu un prix Nobel qui parlait justement, qui travaillait sur le protéine. En 72, c'était l'Américain Christian Huffington. Il avait dit pendant son discours au Nobel, un jour, il sera possible de prédire la forme d'une protéine à partir de la séquence, c'est-à-dire à partir de cet enchaînement. Mm-hmm. C'était à pile 50 ans.
Et on y est.
Et on y est aujourd'hui. Alors, ça peut paraître toujours assez aride, mais pourquoi c'est important? C'est que ces protéines, elles sont absolument partout. On en compte par centaines de milliers dans le corps humain, et c'est elles qui sont dans toutes les interactions. Je prends un exemple qui va être parlant, parlons hélas du Covid, c'est comment on a fait notre vaccin ARN. On a injecté un bout d'ARN qui a permis de synthétiser une protéine, justement. Cette protéine, c'est une une protéine, c'est celle dont on parlait, la fameuse spike, c'est à elle que s'attaquent les anticorps, pour apprendre au corps humain à s'attaquer à cette protéine. On est exactement un exemple parfait d'interaction entre protéines qui sont absolument cruciales pour le vivant. Mais dans le vivant, on dit que c'est la forme qui fait la fonction, et juste savoir de quoi elle est faite chimiquement, ça ne suffit pas. On a besoin absolument de savoir la forme. Et pourquoi c'est une révolution maintenant ? C'est que en prédisant cette forme, on va pouvoir cibler des tas de maladies, produire des tas de médicaments, et ça en une fraction de seconde, alors qu'avant c'était des travaux qui duraient des années et des années.
Et donc ça y est, on peut dire qu'il y a une application pratique de cette découverte ?
Alors l'application, elle va arriver. Aujourd'hui, on reste dans le domaine purement fondamental. Ce qui est assez marrant, c'est que les humains, les hommes, les femmes ont travaillé pendant 50 ans à essayer de résoudre ce problème, et finalement, c'est pas eux qui ont réussi, c'est une intelligence artificielle. C'est le fameux DeepMind de Google, à qui on a collé ça, et qui en une fraction de seconde permet de prédire les protéines. Et cette année, là, le travail est toujours en cours, ils sont en train de modéliser toutes les protéines du corps humain. C'est absolument incroyable. Les biologistes se disent, mais jamais de ma vie j'aurais pu penser voir ça. La deuxième étape, ça va être de travailler sur les interactions, et à partir de là, on va pouvoir avoir notamment des nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique.
Alors, rassure-moi, les 9 autres découvertes du dossier, elles ont été effectuées par des chercheurs humains.
Hein. Oui, par des humains. Okay. Mais c'est quand même extraordinaire comment on arrive aussi à arriver par une grosse boîte privée à un résultat dont on ne pensait pas qu'on arriverait aussi vite.
Avant d'aller vers les autres percées scientifiques qui ont été effectuées sur l'année écoulée, j'aimerais qu'on s'arrête sur les découvertes de nouvelles espèces qui ont pu être faites. Est-ce que tu peux nous en présenter une ou deux, hein, parce que vous avez une double page sur lesquelles vous en explorez peut-être 7 ou 8. J'ai cru voir par exemple que le hibou de Bornéo ou la chauve-souris orange, c'était quand même de sacrés spécimens.
Alors ça fait partie aussi effectivement des choses qui sont sympas dans la science, c'est qu'on a calculé qu'on connaît moins de 20% des espèces. Donc là, on est sûr, chaque année, si on cherche, on trouve. Et donc là, effectivement, on a trouvé en Guinée une chauve-souris qui était entièrement orange. Surprise, c'est quelque chose qui n'avait jamais été décrit auparavant. Bon, c'est pas la seule. Hein. On a trouvé aussi le plus petit reptile du monde. Tu peux le mettre sur le bout de ton index, 2 cm. Oui, pour l'instant, jusqu'au prochain. Alors lui, on l'a trouvé dans une forêt de Madagascar. Et aussi des bonnes nouvelles. On a par exemple retrouvé le petit duc Raja de Bornéo. Et donc là, c'est un hibou dont on pensait qu'il avait disparu. Parce que depuis la fin du 19e siècle, on ne l'avait pas vu. Et là, il y a un chercheur qui se baladait en Malaisie et qui l'a photographié. Et donc cette espèce, qui est probablement évidemment menacée, en tout cas, elle n'est pas disparue. C'est une bonne nouvelle.
Comme on n'a pas 2 heures d'émission devant nous, j'ai été contraint d'opérer une certaine sélection dans la sélection. Sur les 10 découvertes les plus marquantes de 2021, j'en ai gardé 4, chacune dans un domaine bien particulier. Je voudrais commencer par celle qui est peut-être la plus d'actualité au moment où nous enregistrons, puisque le 7 janvier 2022 a été réalisé avec succès la greffe d'un cœur porcin sur un humain. Alors que, en octobre, et là c'est la découverte que vous soulignez, a été réalisée la greffe d'un rein de cochon, là encore, sur un humain, et c'est une greffe qui n'a pas été rejetée. Je pense que c'est ça vraiment l'élément le plus marquant. Pourquoi cette découverte est-elle si importante en 2021 ?
Alors, elle est importante parce qu'elle est extrêmement concernante. On estime qu'en France, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont en attente de greffe. On fait en gros 5 000 greffes par an, et il y en a 3 000 qui concernent le rein. Mais on voit le gap entre les 20 000 et les 5 000, ça fait 1 sur 4. Quoi. La liste d'attente est extrêmement longue. Donc pour réussir à trouver une solution, depuis des années, on travaille sur des organes qu'on fabriquerait en labo ou des machines comme le cœur carmate par exemple, mais on n'arrive pas encore à les développer. Et cette idée d'utiliser des animaux, c'est quelque chose qui est en fait très très ancien. Déjà, je crois que c'était en 1905 qu'un chirurgien français avait implanté un rein de chèvre chez une femme. Mais ça se heurte à un problème majeur, c'est que le système immunitaire du corps humain est extrêmement performant. Et qu'est-ce que fait le système immunitaire ? Tout ce qu'il estime ne pas être du corps humain, il le rejette. C'est comme ça qu'on se défend contre toutes les maladies. Mais donc là, quand on implante un organe animal, la première réaction du corps humain, c'est de le rejeter. Et ce rejet est extrêmement violent. Donc on travaille depuis des années sur le cochon. Pourquoi le cochon ? Parce qu'il a des organes a priori à peu près de la même taille que ceux du corps humain. On pourrait travailler sur des grands primates, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Il y en a moins.
Exactement. Donc on travaille sur le cochon. Il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup, beaucoup d'expérimentations, mais on n'y arrivait pas. Il y avait rejet, rejet, rejet. Et là, il y a eu apparemment un progrès majeur de fait sur la modification génétique de ces cochons pour faire en sorte que les organes ne soient plus rejetés. En fait, on a identifié des molécules auxquelles s'attaque le corps humain. On modifie les cochons pour qu'ils ne produisent plus cette molécule et ça permet de faire cette transplantation.
Et si j'ai bien suivi, en fait, cette première, elle a été réalisée sur un patient, entre guillemets, un cobaye, mais qui était mort, quoi.
Oui, oui, oui. C'était effectivement, on appelle ça en science une preuve de concept. C'était un patient qui a été condamné pour d'autres pathologies et donc avant, on a demandé l'autorisation à la famille de faire cette expérimentation. L'organe est resté à l'extérieur. On n'a même pas refermé la suture. Mais on a vu que pendant plusieurs heures, il ne l'a pas rejeté, donc on a vu que ça marchait. En revanche, la nouvelle dont tu parlais, qui est maintenant beaucoup plus récente, sur le cœur, là, le patient a été réveillé et il a pu vivre. Alors, on attend les nouvelles, mais il a vécu au moins plusieurs jours derrière. Et depuis encore, il y a eu deux autres publications, à nouveau sur le Rhin. Il y a plusieurs équipes qui s'y mettent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que 2022, ça va être une année de révolution pour ces xénogreffes, on appelle ça comme ça, ou transplantation animale.
On reste avec un cochon puisqu'on a retrouvé la silhouette d'un porcin sur les parois d'une grotte indonésienne. Alors, cette découverte, vous lui réservez une place de choix dans votre dossier puisque, ben, chauvins que nous sommes, nous pensions que les pionniers de l'art rupestre étaient européens, voire français. Finalement, il pourrait s'avérer que les plus vieilles fresques peintes par l'homme résident en Indonésie.
Ouais, c'est exactement ça en fait. En France, tu as raison, on est un peu chauvin parce qu'on a Lascaux, absolument magnifique. On a découvert en 1994 la grotte de Chauvet, dont maintenant on a fait une réplique. Et on a des fresques qui sont absolument extraordinaires là-bas. Et puis on se plaît à croire qu'on a les plus anciennes. Mais en fait, si on regarde les chiffres, Lascaux, ça va jusqu'à 23 000 ans. Chauvet, c'est très débattu, mais en gros, on peut dire 37 000 ans. Et là, à l'autre bout de la planète, on a trouvé une silhouette de cochon qu'on a datée à 45 000 ans. Donc, je leur dis 23, 37, 45, et ben c'est plus vieux. Bon, c'est des batailles de chiffres parce que tout le monde a envie d'avoir la première sur son pays. Mais la vraie conclusion, c'est qu'il y a environ 40 000 ans, l'art figuratif est né aux deux bouts de l'Eurasie, à peu près sans doute simultanément.
Tout n'a pas encore été dit hein, sur ces fresques, puisqu'il y a certaines questions qui restent en suspens. Homo sapiens est-il l'auteur ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'autres types d'hominidés qui sont derrière ?
Et voilà, on avait très envie de croire que l'art était né en France, mais on avait aussi très envie de croire que c'est Sapiens qui a inventé l'art. L'art fait partie d'une certaine humanité, mais c'est déjà quelque chose qui avait volé en éclats parce qu'on a déjà des traces beaucoup plus simples, mais des traces sur des parois, des mains par exemple, ou juste des taches d'ocre. En Espagne, on en a beaucoup qui sont attribuées à Néandertal et qui remontent à 65 000 ans. Mais si on regarde tout ça, en fait, on se dit il faut remonter à depuis quand nos ancêtres utilisent la couleur et cette ocre rouge, justement. Et bien, on pense que ça fait 285 000 ans. Donc, on sait qu'on est sorti de l'Afrique à peu près il y a 65 000 ans. On est allé conquérir toute l'Eurasie, qu'on a fait de l'art figuratif quelques temps plus tard. Mais sans doute, les origines de l'art, elles seraient cherchées encore avant par nos ancêtres, plutôt en Afrique. Il n'y a pas de raison que ce soit après la sortie d'Afrique que l'invention ait été faite. Le problème, c'est est-ce qu'on les retrouvera parce qu'on a un vrai problème de conservation.
On a remonté le temps. Je vous propose cette fois de monter, mais dans le cosmos, avec la découverte qui a décroché la seconde place de votre classement. En tout cas, elle a le numéro 2, ça ne veut peut-être pas dire que c'est la deuxième en termes d'importance. C'est la matière cachée qui a été débusquée. Il faut qu'on s'attarde quand même sur le terme de matière cachée qui n'est pas la matière noire. Hein.
Voilà, exactement. Alors, je refixe un peu les idées et tu y reviendras dans ton prochain épisode de podcast. C'est qu'on va parler de gravitation. La gravitation, c'est la force qui explique tout l'univers. Ça marche très bien depuis Newton avec Einstein. Avec un petit détail, c'est qu'on ne voit que 5% de la matière. Le reste, pour 26%, c'est de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, et de l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est non plus. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on reste dans ces 5% qu'on connaît. Hydrogène, hélium. En fait, les choses ne sont pas si simples, parce que sur ces 5%, eh ben, depuis le Big Bang, il y en a 40% qu'on a perdu, qu'on n'arrive pas à voir. On sait qu'elle est là, on sait la regarder, mais le problème, c'est qu'elle est sans doute tellement dispersée, tellement ténue, qu'on n'arrive pas à la voir. Mais là, à force de chercher et de chercher, on l'a trouvée là où on la cherchait, c'est-à-dire dans des filaments galactiques. C'est quoi un filament galactique ? C'est des galaxies, mais très très éparses, qui relient entre des amas de galaxies. Et c'est très très long. Ça peut faire par exemple 300 millions d'années-lumière, alors que la taille de la Voie lactée, c'est 100 000. Donc c'est très très long. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à les voir. Et là, des chercheurs ont fait un travail vraiment au long cours. Ils ont pris plus de 15 000 photos d'un satellite qui prenait des photos aux rayons X, et ils les ont superposées, jusqu'à voir apparaître le signal qu'ils voulaient de cette matière.
Mais parce que le signal était tellement faible et diffus qu'il fallait superposer les diapos en quelque sorte pour que ça ressorte.
Exactement. Donc là, on les a identifiés. Donc cette matière qui est cachée, pas noire, parce que donc je répète, on sait ce que c'est, mais on a réussi à identifier précisément où elle est. Enfin précisément, il faut maintenant qu'on compte combien il y en a exactement à cet endroit-là, là où on a regardé, et où il faut chercher ailleurs. Mais en tout cas, la matière cachée, on l'a trouvée.
On termine en revenant sur le plancher des vaches, ou plutôt des chevaux, puisque l'on aurait découvert le berceau du cheval domestique moderne. Alors, j'ai découvert ça dans votre dossier, apparemment des chercheurs s'écharpent à ce sujet depuis des décennies. Pourquoi avoir sélectionné cette découverte qui, semble-t-il, en tout cas, paraît, je ne vais pas dire mineure, mais presque anecdotique par rapport à d'autres percées que vous avez sélectionnées ?
Oui, peut-être anecdotique, mais qui est quand même tellement liée à l'évolution humaine, de comment on a conquis la planète à d'autres chevaux, mais de quel cheval ? Et ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas la réponse. Alors, il y avait une lointaine croyance que les ancêtres de tous les chevaux, c'était ce qu'on appelait les chevaux de Przewalski. Alors, c'est les chevaux qu'on peut voir dans certains zoos, comme à Thoiry. Mais ça, il y a déjà quelques années, on avait dit que, eh ben, perdu, c'était des chevaux qui ont été domestiqués et qui sont ensuite retournés à l'état sauvage. Donc, on n'a pas ici l'origine de nos chevaux domestiqués. Et là, c'est encore à nouveau un travail au très long cours. On a un chercheur qui s'appelle Ludovic Orlando qui a fait des analyses génétiques. Il a pris au total plus de 200, presque 300 chevaux et il a fait leur analyse génétique. Des chevaux qui remontent jusqu'à il y a 50 000 ans.
C'est ça, il a récupéré de l'ADN dans les fossiles.
Ouais, tu trouves des fossiles, tu trouves un peu d'ADN dans les os ou dans les dents par exemple, des petites quantités, mais ça suffit pour essayer de créer un arbre phylogénétique, c'est-à-dire de voir qui est l'ancêtre de qui. Et il a posé plusieurs hypothèses. Peut-être que les chevaux venaient d'Espagne, peut-être qu'ils venaient des steppes d'Asie. Et en fait, il a écarté ces hypothèses. Aujourd'hui, il a pu établir que les chevaux ont été domestiqués dans l'actuel Kazakhstan. Donc on a pu réussir à retracer qu'il y a environ 4200 ans, des chevaux ont été domestiqués, ont été sélectionnés. Et petit à petit, en 2000 ans en gros, ils ont remplacé toutes les autres races et tous les chevaux, tous, proviennent de ces chevaux.
Et quels sont les critères ou les caractères marquants en fait de ce cheval domestique par rapport aux espèces sauvages?
Alors là aussi, c'est intéressant d'avoir de la génétique parce que justement, il peut regarder qu'est-ce qui change. Et il a identifié deux gènes en particulier. Deux gènes dont il y en a un des deux, on sait que chez l'humain, il y a un équivalent et c'est lié au mal de dos. Donc en fait, il en a sans doute, l'hypothèse posée, c'est que c'est des chevaux qui étaient robustes, résistants, qu'on pouvait monter et qu'on fait monter pendant longtemps, ça leur faisait pas mal. Et le deuxième, on a aussi un équivalent chez l'animal, il est plutôt lié à la docilité. Donc c'est sans doute des chevaux qui ont été choisis parce qu'on pouvait monter dessus, ils étaient dociles, ils se laissaient faire et ça les blessait pas, on pouvait monter et courir longtemps avec.
Alors on va changer un petit peu de jeu puisqu'on a parlé de 2021, on est en 2022, d'ailleurs on vous souhaite une très bonne année si vous êtes encore là avec nous à nous écouter. À quelle découverte peut-on s'attendre en 2022, sachant que la science est souvent surprenante et qu'elle vient rarement de là où on l'attend.
Oui, c'est vrai. Mais on a quand même des pistes, parce qu'il s'est passé fin 2021 un événement très important, c'était le lancement du télescope James Webb. Lancement réussi, c'est un projet qui avait plus de 10 ans de retard, un projet à plus de 10 milliards de dollars, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire, on l'appelle le successeur de Hubble, mais en fait il va nous permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, parce qu'on va pouvoir observer l'univers dans les infrarouges et de voir des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment par exemple des naissances de galaxies. Et donc, grand succès, il est parti le jour de Noël, et ça s'est bien passé. Il est arrivé à son point de garage, de stationnement, il est en train de se mettre en route, de se déployer, et donc on sait que vers le mois de juin, on va avoir les premières images. Quelles premières images? La NASA n'a pas communiqué, mais on se doute qu'on va avoir des choses qu'on n'aura jamais vues avant. Donc là, on est très très excités, ça sera peut-être pour le mois de juin, sinon pendant l'été, au pire en septembre, mais là, on peut être garanti qu'on verra quelque chose de nouveau.
La lumière pourrait venir de l'espace.
La lumière, oui. On aura une nouvelle fenêtre sur des événements anciens ou des événements qui étaient quasiment invisibles jusqu'à présent.
Est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous avez pressenti des percées?
Alors, moi, j'aimerais bien que cet épisode Covid se termine enfin et qu'on en tire certains enseignements, mais surtout certains enseignements assez fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre au point à une vitesse record ces vaccins ARN messagers. Je ne vais pas rentrer dans le débat de leur utilité dans l'épidémie, mais ici, on a quand même réussi à mettre une technique qui était développée depuis plus de 20 ans, mais qui était vraiment marginale. Et on l'a fait sortir des laboratoires à une vitesse, de façon très opportuniste, extraordinaire. Et cette technique d'ARN messager a des promesses. Je pense que ça peut être une vraie révolution médicale. On a des essais cliniques qui sont en cours aujourd'hui, par exemple, sur le cancer colorectal, où on va apprendre au système immunitaire à s'attaquer aux cellules cancéreuses. Il y a des tonnes de projets comme ça, et donc j'espère que cet événement extrêmement malheureux va être une opportunité pour une autre révolution médicale. Mais là, quand même, la chose que j'attends le plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on n'attend pas. C'est les surprises, et ça, on est sûr qu'on en aura.
On y est, arrivé au bout de l'émission, vous vous dites probablement que 4-5 trouvailles sur un top 10, c'est un peu court, jeune homme. Alors c'était ça, ou un inventaire en ligne droite. Les découvertes restantes, vous les retrouverez dans les pages de Science et Avenir ou sur scienceetavenir.fr. J'ai glissé un lien en description qui vous amènera directement à bon port. Mais assez regardé dans le rétro, tournons nos oreilles vers l'avenir. À dans deux semaines pour un nouvel épisode Saut 2022, où l'on enverra de la science dans tous les sens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.